Voilà, bonjour. Alors, permettez-moi d'abord de rajouter un mot sur le dernier poème que nous avons vu au cours précédent. Je crois en effet que, pressé par le temps, je n'ai pas eu le loisir de bien expliquer ma propre interprétation, quelque peu différente des commentateurs, sans toutefois l'annuler. Donc vous voyez le poème « Omo ubeshi, sora o fumikeru, koma no ato o kyoma de tarudu, sue ni sumushito ». Je vous redonne plus clairement ma traduction. Pensons-y bien à celui qui, au terme, demeure, faisant jusqu'à ce jour descendre la trace du poulain qui parcourt le ciel. Je ne reviens pas sur l'explication du poulain, etc. Nous le retrouverons un peu tout à l'heure. Cette traduction est plus conforme à la syntaxe que si l'on prend le syntagme sui nitsumushito au sens des gens qui vivent dans la période de la fin. Ce n'est certes pas impossible, mais l'on voit mieux, avec mon interprétation, le lien avec le Honji Suijaku, n'est-ce pas, la descente de la trace, et comme la plupart des poèmes de ce type. Comme c'est un poème qui relève de la vérité authentique du Shintai, Sui ni Sumushito, il faut bien le considérer comme celui qui est au terme, c'est-à-dire le Avalokiteshvara, Kannon, n'est-ce pas, en la personne de Shotoku Taishi. Voilà. Donc nous avons abordé au cours précédent les premiers poèmes de la centurie de Naniwa Hyakushu, recueil poétique composé en 1919, au moment où allait éclater la terrible crise politique qui devait marquer la fin de la vie de Jien. Nous avons vu qu'elle était entièrement consacrée à célébrer la personne du prince héritier Shōtoku, considéré par Jien, selon une croyance communément répandue à son époque, comme une émanation du Bodhisattva Kannon. À travers l'exaltation de la personne princière, Jien entend remettre dans la perspective bouddhique correcte non seulement les relations entre la loi bouddhique et la loi royale, mais aussi le troisième versant de ce système, qui est représenté par les divinités japonaises conçues comme traces descendues, Suijaku, des bases foncières que sont les Bouddhas et Bodhisattvas. L'une des originalités de cette centurie est de mettre à plat, si l'on peut dire, en la répartissant en couples symétriques de poèmes, la double dimension des deux vérités, les Nitai, donc Shintai et Zokutai, l'authentique et la vulgaire, qui est, selon une idée explicitement formulée par Jien lui-même, présente dans tout poème japonais, par ailleurs, n'est-ce pas ? C'est dans un texte que nous avons vu il y a quelques années de Jien, où il dit bien que tout waka, et pas seulement les waka bouddhiques, se lisent en deux dimensions. Cette répartition stricte et manifeste entre les deux vérités est bien sûr singulièrement intéressante pour nous. Elle nous offre un corpus établi par la plus grande autorité scolastique de son époque, où l'on peut trouver des séries systématiques d'associations d'idées en japonais correspondant aux deux aspects de ce dogme essentiel dans le Tendai. C'est pour nous une occasion exceptionnelle d'examiner ce que les Japonais du Moyen-Âge, les plus lettrés d'entre eux en tout cas, comprenaient concrètement par ce dogme des deux vérités. Il faut reconnaître que l'attribution des poèmes à telle ou telle vérité est parfois fort délicate, ainsi que nous l'avons vu avec le poème sur Sui ni Sumushito. Les commentateurs se fondent simplement sur l'alternance pour la déterminer, ce qui est certainement l'intention originelle de Jien. Mais comme nous l'avons souligné, notre moine poète est trop profondément imprégné de doctrine Tendai pour imposer entre les deux dimensions une séparation absolue. Et nous allons en avoir encore tout à l'heure la confirmation, et puis dans la dernière partie du cours d'aujourd'hui. Certes, il y a des poèmes qui sont situés sans ambiguïté sous l'une des deux vérités. Je donnerai ici un exemple tout à fait éclatant, qui se caractérise par deux traits, le vocabulaire et l'allusion personnelle. Le voici, n'est-ce pas, ce poème ? Zokutai no goja no nori no. Alors, il faut lire ici goja no no, no ho no, plutôt que nori, n'est-ce pas ? Vous comprenez déjà pourquoi, je suppose. Donc, goja no ho no naka ni nao, ukimono watada wangami narikeri. Parmi les entités, nombreuses comme les sables du Gange, de la vérité profane, je trouve que Zokutai est mieux traduit par vérité profane que vérité vulgaire dans le contexte qui nous intéresse ici. Donc, parmi les entités nombreuses comme les sables du Gange de la vérité profane, bien plus encore sinistre est ma propre condition. Nous voyons ici Jien employer résolument une série de termes bouddhiques sino-japonais, Zokutai, Goja et Ho, en principe banni des poèmes Waka, n'est-ce pas, vous le savez, fussent-ils bouddhiques, mais nous avons déjà vu chez lui trop d'exceptions à cette règle pour nous en formaliser encore. Remarquons que le caractère Ho doit bien se lire en lecture phonétique, c'est-à-dire Ho, car la lecture explicative Kun, Nori, ne permet pas en principe de transmettre le sens de Dharma, n'est-ce pas, le Sarva Dharma. Si le Ho, c'est le Shoho no Ho. Et donc, vous savez que lorsque, nous allons le voir d'ailleurs, lorsque Jien veut traduire le sens d'entité phénoménale de Dharma, il le traduira par Nanigoto, Naniwa no Koto, qui est le jeu de mots constant de cette centurie. J'y reviendrai dans un instant. La comparaison avec les grains de sable du Gange provient bien sûr du Sutra du Lotus et de nombreux autres sutras par ailleurs. En outre, le poème s'ouvre sur la mention explicite de Zokutai en sino-japonais, ainsi que Jien le fait dans certains de ses poèmes, souvent lorsqu'ils sont associés à un rite. La seconde partie du poème met à première vue l'auteur lui-même en scène, mais nous avons déjà souvent vu que dans la poésie japonaise, le pronom de la première personne du singulier ne correspond pas forcément au « je » européen. Il n'y a pas de distinction entre singulier et pluriel. Parfois même au contraire, même lorsque le poète semble se désigner personnellement, il faut le plus souvent le comprendre comme représentant la communauté des croyants. Il vaut mieux traduire donc par « notre condition ». Quels que soient les détails, nous n'avons aucune hésitation à classer ce poème dans la vérité profane. C'est marqué dessus, en quelque sorte. En revanche, aucun des poèmes ne mentionne explicitement le Shintai en sino-japonais. Nous trouvons cependant au moins un poème qui, comme celui que nous venons de voir, explicite la vérité authentique par un assemblage de termes sino-japonais. Le voici. Yoba, Yona, c'est un. Le na répète simplement le yo, n'est-ce pas? Donc je vais le traduire par le monde, oui, le monde. Deux lettres seulement, tadaf, tamoji. Deux lettres seulement le soutiennent. La voix de Bouddha et le principe de la nature d'entité. Vous voyez que Hotoke no Michi est en japonais, mais Hosho, ou bien Hojo, n'est-ce pas? On peut le lire à l'époque. Voire Hojo, même, lisons ici traditionnellement Hosho no Dito, n'est-ce pas ? Hotoke no Michito, Hosho no Dito, et pas Kotowari. Donc le monde, oui, le monde, deux lettres seulement le soutiennent. La voix de Bouddha, c'est Do, n'est-ce pas ? Et le principe de la nature d'entité, Ri. Il n'y a sans doute aucun terme du vocabulaire bouddhique sino-japonais dont le sens s'approche davantage du terme philosophique européen des sens que le mot hosho que nous avons ici. Traduction du sanskrit dharmata est considérée le plus souvent d'un sens fort proche, voire comme synonyme de jisso, l'aspect réel, la réalité. Jisso qui, comme vous le savez, est un terme clé du lotus, du sutra du lotus et du tendai. Le hosho désigne l'essence profonde, sous-jacente, immuable des entités phénoménales. Le hosho, c'est ce qui est derrière le shoho, n'est-ce pas ? Moromoro no ho. Mais en même temps, la dimension transcendante où demeure le Bouddha encore de loi, Dharmakaya, n'est-ce pas ? Hoshin, le ho no mi. J'ai déjà, me semble-t-il, déjà rappelé plusieurs fois que dans ce traité fondamental de la dogmatique Tendai, qui est le scalpel adamantin, le Kongo Beenon, la nature d'entité, hosho, est considéré comme identique à la nature de Bouddha, Bushō. C'est dans un passage célèbre du Kongo Beidon. Dans ce poème, Jien, donc, pose comme fondement, au sens littéral du monde, le composé, puisqu'il faut mettre les deux caractères ensemble, Michi et Kotowari, Dōdi. C'est pour lui, en tout cas, effectivement, un terme fondamental, car c'est l'un de ceux qui reviennent le plus souvent dans son traité historique, le Gukansho. Dōdi était vraiment une catégorie constamment répétée dans ses exposés. Dans ce poème, qui relève bien sûr de la vérité authentique, le monde phénoménal, yo, et n'oublions pas aussi la dimension politique de ce terme, que l'on a tendance à négliger en traduisant simplement par ce monde ou l'ici-bas, donc le monde phénoménal s'appuie donc sur un principe, ri, qui se développe en voie, d'eau pour opérer dans toutes les dimensions de l'existant. Nous avons ici ce qui se rapproche le plus d'une définition de la vérité authentique dans cette centurie. Et remarquons encore une fois combien ce recueil nous donne d'indices précieux sur l'état de la réflexion de J.N. quelques années avant, avant qu'il ne mette la dernière main à son traité historique. La plupart du temps, c'est par métaphore, selon les règles les plus communes de la poésie japonaise, qu'il suggère ce qu'est le Shintai, la vérité suprême ou authentique. Je voudrais d'abord attirer l'attention sur l'une d'elles qui montrera que mon interprétation liminale du Suen Isumushito n'est pas le fruit d'un caprice de mon imagination. Le verbe sumu est en effet souvent utilisé avec l'adverbe tsune, tsuneni, jo, n'est-ce pas, dans les passages du Lotus concernant l'éternité du nirvana de Bouddha. Je vous en donne ici quelques-unes qui proviennent pour la plupart du chapitre 16, n'est-ce pas, sur l'éternité, sur la longévité du Bouddha. Jien utilise souvent, alors vous voyez que vous avez tsuneni sumu, jo ju, qui se trouve très fréquemment développé dans les Shakyoka bouddhiques en tsuneni sumu. Je vous donne quelques exemples, n'est-ce pas? Je demeure toujours, je demeure éternellement à prêcher cette loi, ou je demeure toujours ici à prêcher la loi, et je demeure toujours ici, c'est-à-dire parmi vous, derrière le voile expédientiel qui est mon entrée en nirvana, n'est-ce pas? Puisque le nirvana est un expédient, comme vous le savez bien. Et vous voyez que l'expression fuzai, josai, que nous allons voir tout de suite, josai, tsuneni adi, n'est-ce pas, kokoni tsuneni adi, et fumetsu, messezu, je n'entre pas dans le nirvana. C'est exactement ce passage qui va être vu dans un instant. Alors, Jien utilise souvent pour illustrer cette pérennité de l'existence caché du Bouddha au beau milieu du monde des hommes, l'image de la lune du matin, Ariake no Tsuki. Ariake no Tsuki. C'est donc la lune du matin, la lune. Alors, il y a parfois des ambiguïtés dans les poèmes, parce qu'on parle, nous allons parler, comme tout à l'heure, de Yo no Fukuru Toki, au plus fort profond de la nuit, mais c'est un peu comme dans la chanson des Mamas and des Papas, n'est-ce pas, The darkest hour is just before dawn. C'est la lune du matin. Suit la profonde obscurité qui précède l'aurore. Alors voici ce poème qui est tiré de la centurie du lotus, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'il est avec le Josai Tsuneni Adi ici, et sur lequel, donc, ce n'est pas la centurie de Naniwa, c'est la centurie du lotus, mais je vous le donne comme prélude. Alors, on ne distingue plus de la nuit noire le jour, sur le mont des aigles, toujours elle est paisible, la lune du matin. Rappelons aussi que le mot descriptif nodoka, itsumo nodoka ni ari, vous voyez le itsumo nodoka ni ari, vous avez le jo zai, itsumo jo tsuneni ari zai, n'est-ce pas ? Et le jeu de mots télescopé avec adiake. Donc rappelons aussi que le mot descriptif nodoka évoque presque toujours le nirvana chez Jien et bien d'autres poètes du Moyen-Âge japonais. Par le kudai, donc la citation scripturaire sur laquelle est fait le poème, nous apercevons que le mot ariake, qui est là et qui brille, pourrait-on se risquer à traduire, est appelé par le verbe zai ari du terme original chinois. Donc dans ariake no tsuki, vous avez la réminiscence du zai, n'est-ce pas ? Cela explique bien la métaphore. Par-delà le nirvana, c'est le Bouddha demeurant en sa dimension la plus sublime qui est évoqué par ce terme, le corps de loi, donc le Hoshin, et à travers lui, la nature de loi, Hosho, et l'aspect réel, Jisso. Nous voyons sans peine la relation avec le poème vu à l'instant sur Hosho no di, Hosho no kotowadi. Lisons dans la centurie de Naniwa, donc celle qui nous occupe aujourd'hui, deux poèmes où apparaît le terme Ariake no Tsuki. Placés tous deux sous le signe de la vérité suprême, Shintai, qui nous confirme que c'est bien la même idée qui les relie. Voici le premier. Donc, Awajishima, Awajishima, Washino Takane ni Aranedomo. Adiake no tsuki o miruzo urishiki. Awajishima, certes, n'est pas le pic des aigles. Et cependant, quelle joie d'y contempler la lune du matin. L'île d'Awaji, vous le savez, est l'île qui ferme la baie d'Osaka à l'ouest. Elle est visible du Shinten-no-ji, comme le remarquent les commentateurs. Et elle est de plus parfois identifiée à Onogoro-shima. C'est-à-dire, Onogoro-shima est une petite île, serait une petite île qu'on n'a pas identifiée d'ailleurs à côté de Awajishima. C'est la première île de l'archipel japonais créée, comme vous le savez, de la vase qui dégoutte de la lance tenue par Izanagi et Izanami à l'origine du monde. C'est pas... Et après Onogoro-shima, c'est Awajishima qui est la première des îles réelles en quelque sorte. En y apercevant la lune du matin, Jien peut donc imaginer qu'il contemple le Bouddha demeurant éternellement derrière les apparences phénoménales, telles qu'il pourrait le contempler au mont des aigles, le Washinoyama, lequel est à la fois le mont Hiei près de Kyoto et le pic du Vautour dans la mythique, près de la mythique Bénarès. Mais c'est bien sûr avant tout le Sutra du Lotus qui est ainsi désigné. Nous voyons bien, n'est-ce pas, à la fois le Takamine, j'ai mis Washino Takeni, on peut lire aussi Washino Takeni, enfin si. Mais c'est bien sûr le Sutra du Lotus qui est désigné par le Takamine ou le Takane que nous avons ici. Nous voyons bien comment ce poème s'accorde avec celui du Dori vu précédemment, lequel soutient le Dori, le monde phénoménal. En même temps, le toponyme d'Awaji est encore utilisé par Jien dans cette même centurie avec une connotation plus remarquable qui est imposée quasi naturellement par l'orientation géographique. Donnons-le rapidement, car il semble nécessaire de nous représenter au mieux toutes les associations d'idées qui se développent dans ces poèmes. Le voici. Nishi no yuku Awaji no shima no shima oroshi. Shima oroshi, c'est donc le vent qui descend de l'île, n'est-ce pas ? Mukae no kumo wo fuki harau na yo. Ô vent qui souffle, descendant d'Awaji, en direction de l'ouest, ne va pas balayer le nuage qui vient à notre rencontre. Nous voyons que Awaji, ici exprimant l'ouest, c'est nous tout naturellement le paradis d'Amida qui se présente aussi aux yeux de l'esprit du fidèle. En regardant Awaji, par-delà Awaji, il y a la terre pure de l'ouest. Le second poème où apparaît Adiake no Tsuki apparaît également comme une mise en contraste de l'apparence phénoménale et de la réalité qui se cache derrière elle. À la colline de Hase, Hatsuseyama, je passe sur les modifications phonétiques, je vous donne les alternances de graphie aussi. À la colline de Hase, plutôt que maintes fois entendre « Iku iri ai no kane yorimo », donc plutôt que de maintes fois entendre la cloche du soir, au vent des pins d'attente en la nuit sombre, la lune du matin. J'essaye de rendre tant bien que mal l'accumulation des sens, comme d'habitude. On voit qu'il s'agit d'un poème fort intriqué. Et je vous donne en seconde version les caractères chinois pour que vous puissiez mieux suivre, n'est-ce pas ? Dont il faut démêler les imbrications pour bien le comprendre, bien que le sens général s'entende assez facilement. Haseyama est un toponyme poétique de la province de Yamato, donc le Yamato qui est un synonyme du Japon aussi. La cloche en question désigne bien sûr celle du temple connu sous le nom de Hasedera, qui est à présent l'un des hauts lieux de l'école ésotérique Shingon, de la branche Buzanha, ce n'est pas le Tendai donc, mais qui était encore à l'époque de Jien un monastère dépendant du Kofukuji de Nara. Le Kofukuji qui est le centre de l'école Hosso, dont le système scolastique hautement élaboré pouvait rivaliser avec celui du Tendai en matière de doctrine ésotérique. Et vous savez qu'il y a eu un débat constant entre le Hososhu et le Tendai dans la première partie du Moyen-Âge. Aucun commentateur ne relève cette possibilité d'interprétation, qui nous semble cependant fort plausible si l'on tient compte de la locution « yorimo », n'est-ce pas ?« Kane yorimo », qui laisse entendre une nuance dépréciative à l'égard du second terme de la comparaison. C'est donc, plutôt que d'entendre la cloche du soir, c'est la lune du matin. Donc, la cloche du soir, il semble bien qu'il y ait une allusion aux doctrines du Hososhu, n'est-ce pas, par le Hasedera. Et donc, le Yorimo, qui implique un choix dépréciatif par rapport au comparé, n'est-ce pas ? C'est le matsukaze, l'attente du sutra du lotus, qui est à prendre en considération, laquelle est symbolisée par le adiake no tsuki, la vérité vraie, authentique, qui est derrière le phénoménal. Le hososhu serait en quelque sorte ici considéré comme une école phénoménale. Relevons, phénoménal au sens de circonstanciel, n'est-ce pas ? Relevons en passant le jeu de mots habituel sur matsukaze, bien sûr, qui est développé par le verbe fuku. Vous voyez que fuku veut dire à la fois fuku, souffler, et fukuru, se faire tard. La nuit phénoménale qui va en s'épaississant est promesse de l'apparition de la lune du matin que le vent de l'attente débarrassera des nuages de l'ignorance. Remarquons en passant que presque tous les poèmes que nous lisons ne sont pas intégralement consacrés à l'une des deux vérités, mais qu'ils insistent sur le passage de l'une à l'autre, se relevant de la vérité profane insistant sur l'aspect de la descente, taru, les autres insistant sur la révélation du réel dans le phénoménal, comme Aliake, n'est-ce pas ? En une parfaite illustration poétique du dogme dit d'ouverture du circonstanciel pour manifester le réel. C'est un des gi, n'est-ce pas, le plus souvent répété de l'école Tendai. C'est le mouvement même de la scolastique Tendai. Kaigon, on ouvre le circonstanciel, on ouvre comme on ouvre une noix, n'est-ce pas, on ouvre ce qui est le kali no mono, pour révéler ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le jitsu, le réel, minori, n'est-ce pas, l'authentique. Et je vous rappelle que le synonyme de minori chez JN, c'est Makoto, nous allons le voir tout à l'heure. Bien évidemment, le moyen privilégié de faire passer dans le monde profane la vérité du monde supérieur est le langage. Nous avons vu plus haut que l'allusion la plus directe de JN se référait à deux caractères chinois, futamoji. Mais le fait même qu'il poétise en japonais nous dit assez le rôle qu'il entend donner à cette langue dans ce que l'on pourrait appeler l'économie du salut. Trois poèmes mentionnent le terme privilégié par JN pour désigner la langue, et singulièrement le japonais, Kotoba ou Kotonoha. Nous en verrons un quatrième poème qui nous offrira un furtif aperçu de ce que JN pouvait vraiment penser en cette période de fin de la loi. Le premier poème relève manifestement de la vérité profane, invoquant un événement fondateur dont les prolongements sont encore constatés par JN aujourd'hui. Ikani toyo, mukashimo shakan no nori no koto wa kikikonu shito mo aru yo narikeri. Comment se fait-il qu'en notre âge encore, aru yo narikeri, qu'en notre âge encore, il s'en trouve pour ne pas venir écouter les paroles de loi comme autrefois pour Shakyamuni. Mukashimo shaka no nori no koto wa kikikonu shito mo aru yo narikeri. Vous voyez qu'il y a encore une fois la superposition de deux temps et de deux épisodes. L'allusion est transparente ici à l'épisode des moines outrecuidants, vous souvenez des Zojoman no Bhikkhu, n'est-ce pas, qui, au chapitre 2 du Sutra du Lotus, se retirèrent de l'assemblée de loi où le Bouddha allait révéler le Sutra du Lotus, jugeant qu'ils n'avaient plus rien à apprendre de cette prédication du Bouddha. Ici donc, Kotoba désigne le message du Bouddha, comme cela arrive souvent dans les poèmes de Jien. Et l'on ne trouve nulle question particulière sur la nature de la langue qui le transmet. Un autre poème, tout en se rapportant à la langue de la prédication du Bouddha, encore désignée par Kotoba, insiste sur la diversité des facultés d'intelligence des êtres, rappelant en cela le chapitre 6, le 5 du lotus, n'est-ce pas, sur les yakuso-hon, les herbes médicinales, les simples. Je vous le donne ici et faites attention à wakite. Wakite izuru kotobawa, ou bien wakite izuru kotobawa, n'est-ce pas ? Il faudrait mettre une pause entre les deux. Alors, onaji tsu izutsu, fukasa asasa wo shirushito no naki. Vous voyez que Je vous passe sur les difficultés des manuscrits, etc. Les commentateurs les ont très bien résolus, à mon sens. Tsutsui Zutsu ou Tsutsui Tsutsu, ce sont les puits traditionnels japonais dont le puits est de forme cylindrique, n'est-ce pas ? Donc, ça, n'insistons pas là-dessus, c'est simplement un puits. Les paroles qui jaillissent en leur diversité, wakite, et waku, jaillir, n'est-ce pas ? Les paroles qui jaillissent en leur diversité proviennent d'un même puits, dont plus personne ne sait reconnaître la vraie profondeur. Fukasa, asasa. Bien que ce soit présomptueux de souligner, présomptueux de ma part, aucun commentateur ne paraît avoir tenu compte du sens de fumbetsu, n'est-ce pas, qu'il y a dans le verbe waku du début, c'est-à-dire la discrimination, la distinction, distinguer, dont le sens manifeste de jaillir tend bien sûr à masquer les autres sens. Wakite doit donc ici s'entendre comme la diversité phénoménale de la parole originellement une du Bouddha, ceux qui l'accueillent ne pouvant plus en mesurer la portée en cet âge de fin de la loi. Cette idée rejoint donc la précédente, et il est inutile de préciser que le poème relève de la vérité profane. Le poème suivant est l'un des tout derniers du recueil, et l'on pourrait y trouver valeur de conclusion. Waka no uraya, n'est-ce pas ? Koto no ha, kaze ni tatsunami o kokoro ni kakete, chigiru to o shire. Au rivage de Waka, Waka no ura, le toponyme, n'est-ce pas ? Les feuilles des paroles, en vagues poussées par le vent, déposées en mon cœur, sache que c'est en allégeance. Je vous donne cette première traduction. On remarquera combien ce poème est proche de celui qui concluait la centurie sur Pochui, n'est-ce pas ? Hakurakuten. Vous voyez que Koto no ha kaze no fukikureba yosete zo kaesu waka no uranami, n'est-ce pas ? Du pays de Chine, quand souffle le vent, des feuilles de paroles en retour. Quand souffle le vent des feuilles des paroles, en retour de sa venue, les vagues de la plage de Waka. Donc les vagues de la plage de Waka, c'est-à-dire les poèmes japonais, sont en quelque sorte le contre-effet, le feedback, n'est-ce pas, du vent venant de la Chine. Celui-ci, celui qui est ici, relevant de la vérité profane, est en quelque sorte l'envoi de Jien à Shotoku Taishi, faisant de son recueil déposer en offrande de loi un lien d'affinité qu'est Jien, n'est-ce pas, qui explique le chigiru ici, l'allégeance, le lien d'obligation que l'on crée. Un lien d'affinité, donc, avec, et nous allons voir que c'est confirmé dans la postface, bien sûr, avec le prince protecteur des deux lois, bouddhique et royal. On voit encore une fois, comme dans le recueil précédent, où le waka était considéré comme la réponse dans le domaine phénoménal à la langue sacrée, en quelque sorte, la hiéroglosse chinoise, que c'est le même waka qui est signe d'alliance entre les deux dimensions. Il sera sans doute inutile de rappeler que c'est le mouvement même que nous avions discerné dans le Waka no Eishu il y a 2 ans. Avant de passer à un quatrième poème plus problématique, je pense qu'il serait intéressant de voir le poème qui suit immédiatement celui-ci sur Waka no Ura. Relevons de la vérité suprême. Il illustre aussi ce que nous avons dit sur la compréhension profonde que peut avoir des relations entre les deux vérités un moine poète du Tendai tel que Jien. Ici encore, nous pouvons remarquer l'ambiguïté de la distinction entre les deux vérités. Bien que mis sous le signe du Shintai, de la vérité suprême, nous pourrions très légitimement hésiter sur son appartenance. Le voici donc. Ukiyo ni mo, makoto no michi no sumaigusa, sumogusa, sumaigusa, toriawasetsutsu, tsuyozo kobururu. Même en ce monde. En ce monde et en cet âge, n'est-ce pas, c'est le monde et l'âge dans lequel il vit. Même en ce monde, en cet âge sinistre, tandis que je prends et tresse les lignes de liseron, toriawasetsutsu, les tiges de liseron, de la voie du réel. Les tiges du liseron de la voie du réel. Makoto no michi no sumaigusa. Mes larmes coulent à flot. La variété de liseron appelée herbe de sumo, n'est-ce pas, sumogusa, sumaigusa, c'est le liseron hirugao en japonais, tire son nom de la tendance de ses tiges à s'enrouler entre elles, comme le rappelle très bien aussi le nom latin de ce genre botanique, n'est-ce pas, qui est convolvulus, n'est-ce pas, ce qui est entouré en convolute. Donc on voit très bien l'image. Tous les commentateurs s'accordent à reconnaître que ce poème exprime l'entrelac étroit des deux vérités. Les pleurs du poète sont laissés à notre interprétation, soit la reconnaissance à l'égard de Shotoku Taishi, ou bien l'émotion à penser que derrière la vérité profane se tient à jamais la réalité du lotus. Évidemment, Makoto no Michi, je vous ai dit tout à l'heure, Minori, Makoto sont synonymes, Makoto no Michi, ce n'est pas seulement la voie bouddhique, comme le disait le commentateur, c'est vraiment l'enseignement du lotus. Mais revenons pour en finir ici avec l'aspect langagier plus ou moins explicitement traité par J.N., un poème qui nous donne à réfléchir. Alors, il est un peu compliqué, mais... Urei no o. Ikue wagami ni matouran. Kurikae sabaya. Alors, on peut lire shitsu ou shizu. Maintenant, à l'époque de J.N., on disait shizu no odamaki. Kurikae sabaya, shizu ou shitsu no odamaki. Alors, le ure no o, c'est la lecture en japonais de shusho, n'est-ce pas, chushu en chinois, c'est-à-dire le fil du chagrin, littéralement. Donc, l'émotion o étant considérée comme le nasake, le sentiment. Les fils de mon chagrin, de combien de tours m'en serreront-ils? Si je pouvais de nouveau enrouler à l'envers, n'est-ce pas, enrouler à l'envers, la pelote des tissus d'antan. Ce poème s'inspire de poèmes plus anciens sur lesquels nous ne revenons pas, en particulier de Issei Monogatari. Le terme qui nous intéresse est shizu, dans la locution shizu no odamaki. Odamaki désigne à présent une fleur, l'encolie, mais le sens ancien est pelote, appuyé par le terme introducteur shizu, qui signifie un genre de motif tissé japonais ancien. C'est considéré comme typiquement japonais, une espèce de symbole de la japonitude, si j'ose dire, dans les poèmes anciens. L'ancienne prononciation était shitsu, mais il est prononcé shizu à l'époque de Heian, donc à l'époque de Jien. Il est donc homophone du terme dépréciatif bien connu, qui s'écrit avec sen, n'est-ce pas, iyashi, qu'on lit aussi shizu, qui désigne donc tout ce qui est de basse condition et parfois ce qui se rapporte à soi-même. Donc on peut penser que J.N. joue de cette ambiguïté pour se désigner lui-même et s'insérer plus explicitement dans son poème, n'est-ce pas ? C'est le Kurikae Sabaya, n'est-ce pas ? Si je pouvais repartir à zéro, en quelque sorte. Tout ce que j'ai fait ne sert à rien. Je voudrais pouvoir revenir à l'époque où je commençais et reprendre les choses de façon plus efficace. Donc, ce poème se présente comme une réflexion sur l'inutilité de l'action du prélat tout au long de sa vie et l'expression d'un désir de revenir au point de départ. Mais si l'on prend garde à la graphie en caractère chinois du mot shizu, vous le voyez ici, n'est-ce pas ? Littéralement, wabun. Et si l'on admet que cette graphie doit intervenir, même s'il n'est pas exprimé, s'il ne se présente pas explicitement dans l'intelligence du texte, ce poème prend une orientation langagière inattendue. En effet, shizu s'écrit avec deux caractères signifiant Yamato, n'est-ce pas, wa no aya, puisque bun peut se dire aya, les motifs, les décoratifs, donc les motifs japonais, mais aussi Yamato no fumi, Yamato bumi, les textes japonais. Et si on le garde, si on garde cette graphie en filigrane, n'est-ce pas, c'est le cas de le dire, dans ce poème, l'on comprendrait alors que J.N. s'interroge sur l'utilité même de son œuvre en langue japonaise. Et ce poème serait à ajouter à ceux qui concernent la langue. Malheureusement, aucun commentateur ne semble avoir pris en compte cette possibilité. Cela ne nous arrête pas d'ordinaire, mais l'on doit reconnaître que cette interprétation est fort risquée. Elle est pourtant tout à fait intéressante. Et je ne pense pas qu'on puisse l'écarter. Malgré le peu de temps que nous avons, je voudrais que nous lisions aussi le poème Shintai, donc le, puisque là c'est un poème Zokutai, n'est-ce pas, de la vérité profane. Le poème de la vérité suprême correspond à celui que nous venons de voir. Kowa ikani, shito ni mumarete, nori o kike to, oshiraretaru, mito wa shirazuya. Qu'est-ce donc à dire ? Alors que né humain, il te fut enseigné d'écouter la loi et de ne plus le savoir. C'est un appel en réponse, pourrait-on dire, au poème précédent, à se souvenir que la condition humaine est la condition première pour rencontrer la loi bouddhique. Ici encore, nous pouvons voir l'ambiguïté de la formulation. L'interrogation négative qui est adressée à l'auteur, comme aux gens de son époque en général, implique certainement la constatation d'un manque. Et de ce point de vue, ce poème s'accorde bien au précédent. On pourrait même le considérer comme plus pessimiste encore que le premier, puisque le premier traite de l'inutilité des efforts du poète, alors que le second est le constat de l'ignorance de sa condition. Mi towa shirazuya peut aussi se considérer qu'on est dans le mumio, n'est-ce pas, l'ignorance. Et alors que ce poème est considéré comme shintai, n'est-ce pas ? Et comme vous voyez, c'est un mouvement. L'attribution à telle ou telle vérité est dans le mouvement même. Ici, il nous invite à passer de ce shirazarumi, n'est-ce pas, de cette condition où l'on ignore, à le shito ni mumarete nori o kike to oshiraretaru, c'est-à-dire l'enseignement premier du Bouddha dès le début, qui est, en tant qu'être humain, d'écouter la loi. Donc c'est un mouvement ascendant, et de ce point de vue, il engage la vérité suprême. Bien entendu, le cœur doctrinal de cette centurie est le Sutra du Lotus. Et nous avons brièvement fait allusion à l'importance du prince Shotoku, avatar du deuxième maître du Tendai, Huesu, Eshi, et en même temps avatar d'Avalokiteshvara, dans la fortune du Sutra du Lotus au Japon. Un poème transpose l'un des enseignements fondamentaux du terme du lotus en des termes familiers à Jien, tout en les adaptant à la situation historique du Shiten-no-ji. Voici ce poème. Kimi wa geni, nani wa no kotomo. Alors nous retrouvons ici, n'est-ce pas ? Minori zoto, oshiuru urani, ato o tarekeru. Alors le kimi, là je propose de le traduire ici par monseigneur, n'est-ce pas ? C'est à la fois donc une adresse à Shotoku Taishi et en même temps à Avalokiteshvara, à Kannon, et aussi ça peut être aussi considéré comme le pronom de la deuxième personne. Monseigneur en vérité, geni. Geni s'écrit aussi jitsu, n'est-ce pas, vous le savez. Donc vous voyez que nous avons ici geni et naniwa no kotomo, comme si on n'avait pas compris que naniwa no kotomo traduisait aussi jitsu. Monseigneur en vérité a fait descendre sa trace sur la rive où s'enseigna que toutes les choses de naniwa, je transcris, j'essaye de faire passer le jeu de mots, que sur la rive où s'enseigna que toutes les choses de naniwa sont la loi de réalité. Nous voyons tous que c'est encore une fois l'expression Shoho Jiso, la réalité des choses, qui est encryptée dans la première partie du poème, avec le recours classique au toponyme même de Naniwa, compris comme n'importe quelle chose. Naniwa no Kotomo, n'est-ce pas ? Naniwa no Kotomo, Nanigotomo. Il est intéressant de voir ici que Jien raffine le jeu de mots en ayant recours à Minori plutôt que Makoto. Vous voyez que Naniwa no Kotomo, Minori, c'est le Minori de la loi auguste, mais c'est en même temps le Minori de Jitsu. Et ça rappelle exactement, vous vous souvenez de, n'est-ce pas, Tsunokuni no Naniwa no Kotomo Makoto Towa, Naniwa no Kotomo Makoto Towa de Jien, qui traduisait bien le Shoho Jiso, ici se transforme en Naniwa no Kotomo Minori Zo. C'est la même chose. Makoto s'écrit avec Jitsu et Minori, bien sûr, c'est Jitsu. Le lecteur a à faire un effort de transposition supplémentaire donc, pour passer de l'auguste loi à la réalité, désignée par Minori, comme lecture explicative de Jitsu. Ce poème est bien sûr placé sous la vérité authentique et présente le prince Shotoku comme le transmetteur de la loi du lotus. Mentionnons très rapidement comme habile harmonisation du lotus et de la terre pure ce poème dépendant de la, encore une fois, de la vérité suprême, Shintai, dans lequel Jien fusionne les deux écoles, en quelque sorte. Regardez comme c'est habile, n'est-ce pas ? Mukashi yori, nori no hachisu o ike ni mite. Kono o tera ni kokono sumitsutsu. De longue date, contemplant dans l'étang le lotus de la loi, c'est en ce grand temple que notre cœur va se purifiant. En mêlant les deux locutions, nori no hachisu, d'une part, que l'on retrouve dans le titre du Sutra du Lotus, myo ho ren ge kyo, ho ren nori no hachisu, et hachisu no ike, l'étang des lotus, l'étang de la terre pure, où les fidèles renaissent chacun sur un lotus au pied d'Amida. Donc en mêlant ces deux locutions, Jien réalise poétiquement l'harmonie présidant au Tendai Jodo Kyo, n'est-ce pas, le syncrétisme Tendai Terre Pure qu'il a pratiqué tout au long de sa vie, formé qu'il fut dans le haut lieu de ce système qui est le Shōren-in de Kyoto. Bien entendu, le motif central de cette centurie est la personne du prince Shotoku. Nous n'avons plus le temps d'examiner les poèmes qui d'examiner en détail les poèmes qui traitent de la personne même du prince, mais lisons-en quelques-uns. Et celui-ci d'abord, le huitième de la centurie. Oui, je vous donne deux chiffres à chaque fois, vous l'avez vu. Le premier chiffre, c'est le chiffre dans la centurie. Le second chiffre, c'est le chiffre dans l'ensemble des œuvres de Jien, n'est-ce pas, dans le Shugyokushu. Alors, il contraste avec celui que nous venons de voir, dans lequel le prince, sous le signe du Shintai, de la vérité suprême, était le dispensateur du Sutra du Lotus. Nous sommes cette fois dans la vérité profane. Alors, Haru no kusa ni chigiru, encore une fois le verbe chigiru, chigiru shirushi no kai mo araba, tegai ni nareyo mumayado no miko. Je n'insistons pas trop sur les différentes allusions. Parce que, alors, si au terme du printemps, l'alliance miraculeuse garde sa vigueur, de ta main nourris-nous, ô prince de l'écurie, Mumayado no Miko. C'est bien ça, n'est-ce pas ? On pourrait le traduire plus noblement par connétable. N'oubliez pas que connétable, c'est comis tabuli, le comte de l'étable, qui veut dire écurie au Moyen-Âge. Nous retrouvons ici, bien sûr, l'affaire du poulain de Kai, de la province de Kai, Kai no Koma, dont je vous ai parlé, c'était le dernier poème de la dernière fois. Et n'oubliez pas que Kai, qui signifie la province de Kai, correspondant à peu près au Yamanashiken actuel, c'est aussi Kai Adu, Kai Nashi, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine, et c'est efficace, n'est-ce pas ? Vous voyez ici, donc le Kai mo Alaba, si ça garde, s'il est encore en vigueur, n'est-ce pas, on dirait. Donc, nous retrouvons donc l'affaire du poulain de Kai avec le même jeu de mots. Passons sur les herbes du printemps et les liens à travers tout le poème, qui servent surtout à introduire la façon dont le prince, dans la biographie légendaire, apprivoisa le poulain en le nourrissant de sa main. De même, les fidèles seront nourris et éduqués à jamais par l'efficace action du prince. L'alliance en question se réfère certainement à celle du premier poème d'invocation à Avalokiteshvara. Vous saviez qu'il y avait aussi le terme Chigiri dedans, la base foncière du prince Shotoku. On peut y voir aussi l'alliance des Bouddhas et des Kami japonais, sur lesquels nous n'aurons pas le temps d'insister ici. Disons simplement que la centurie ne les oublie pas. Nous voyons donc bien ici illustrer le double mouvement par lequel on peut distinguer ce qu'entend Jien par vérité suprême et vérité profane. La première considère les circonstances pseudo-historique, légendaire de Shotoku, comme ici, l'histoire du poulain de Kai, et la seconde est une invitation à remonter du profane à sa source authentique. Trouvons confirmation de cette lecture dans le poème « Vérité profane » qui suit immédiatement celui sur Shotoku comme dispensateur du « Naniwa no koto no minori ». C'est le poème que nous avons eu tout à l'heure. « Inishie no, hijiri no miko no, Ikanareya, Aimizalishini Koishikaruna. Ça se présente comme un poème d'amour, en quelque sorte. Comment se fait-il que pour le saint prince de temps si ancien et jamais rencontré, j'éprouve un tel amour ? L'adjectif koishi peut évoquer aussi bien l'amour humain que le regret ou la nostalgie, le désir de rencontrer quelqu'un. Expression on ne peut plus typique de l'émotion humaine plongée dans le monde des passions, elle s'applique bien à la vérité profane, où le mieux que l'on puisse faire de ces passions, les bonno, est de les réorienter vers un but salvifique. Ce qui aurait pu facilement être un poème amoureux, n'est-ce pas, dans sa dernière partie, est donc transformé en imploration au personnage central de la dévotion de Jien, et c'est une belle illustration du verbe hirukaesu, n'est-ce pas, vous vous souvenez, le verbe hon, n'est-ce pas, qui est au milieu de la célèbre citation de Po Chuyi sur le Kyōgen Kigyō, les paroles spécieuses de la poésie, que l'on doit réorienter, renverser, inverser vers de plus nobles fins. Donnons un autre poème qui, bien qu'il puisse nous sembler fort proche en sa tonalité, est placé sous la vérité suprême. Encore une fois, vous voyez que c'est très difficile de distinguer. Waga kimi ni owari toru chō tsuki hi o wa nao ikutabi mo tazune mo san. À mon Seigneur, bon, on comprend mieux quand même. On comprendrait mieux quand même qu'il soit sous la vérité vulgaire, profane. À mon Seigneur, combien de fois encore me faudra-t-il demander le jour et l'heure où ma vie prendra fin ? Vous voyez que « owari toru », qui est une locution assez rare, c'est vraiment « prendre fin », et il désigne la fin de la vie. Presque au terme de la centurie, c'est une imploration tournée vers la fin et donc vers l'avenir, alors que le précédent se rapportait au passé circonstanciel, ce qui suffit à justifier la répartition. Vous voyez, le owari toru, c'est la renaissance. Remarquons en passant que, comme vous le voyez, le mot, je parle de circonstanciel, qui traduit souvent, avec lequel je traduis le mot gon, n'est-ce pas, l'antonyme de jitsu, le circonstanciel, le provisoire et le réel. Si vous vous souvenez du premier cours, la poésie de Son-en, le disciple à un siècle de distance de Jien, le mot kari, avec le jeu sur l'oie sauvage, n'est-ce pas, kari gane, gan, est très souvent utilisé, et dans les poèmes postérieurs. Or, on ne trouve jamais ce genre de jeu de mots chez Jien. C'est ce qui veut dire qu'il y a vraiment une histoire, en quelque sorte, d'échec kyokan, n'est-ce pas, même du vocabulaire. Jien emploie des mots comme karisome, pour désigner ce qui est circonstanciel, mais il n'y a jamais le jeu de mots sur l'oie sauvage que nous voyons très souvent dans les shakyoka postérieurs. Ici, on pourrait, dans cette censurie de Naniwa, n'est-ce pas, qui est divisée entre Zokutai et Shintai, ce serait l'occasion ou jamais d'utiliser ce vocabulaire. Jien ne le fait pas. Donc, voilà, il faut faire aussi l'histoire du vocabulaire de shakyoka, n'est-ce pas. Avant d'aborder un dernier thème de cette centurie, lisons un poème qui combine merveilleusement, en une incroyable densité d'expression et aux dépens malgré tout de la rigueur poétique, plusieurs thèmes fondamentaux de la dévotion à la personne de Shōtoku, tels que Jien la conçoit et la justifie. Vous voyez, il est bourré de termes chinois. Alors, Hanyadai ni osamete okiteshi, osamete okiteshi. Hokekyo mo yumedono yorizo utsutsu ni wa koshi. Le sutra du lotus. Alors, pardonnez la mignardise de cette phrase, mais bon, je me suis laissé aller. Le sutra du lotus, tel que déposé fut et gardé en la terrasse de Sapiens, c'est de la chapelle du rêve qu'il vint à la réalité. On ne sera certainement pas étonné de trouver ce poème sous le signe du Shintai. Il combine la légende de Shōtoku, élaborée comme nous l'avons vu au milieu du 8e siècle sous l'influence des moines chinois arrivés au Japon autour de Ganjin, et les vues postérieures. Il relie l'un des plus anciens lieux bouddhiques japonais, le pavillon du rêve du Horyuji, c'est-à-dire le Yumedono, bien sûr étroitement lié à la géographie traditionnelle du prince, puisqu'il a été fondé en principe par le prince Shōtoku, c'est l'Ikarugadera, n'est-ce pas ? Et nous avons vu aussi, nous n'avons pas vu, mais dans ce Yumedono se trouve une statue de Guze Kannon, la Valokiteshvara sauvant le monde, Yosuku, qui est saluée au début de la centurie, n'est-ce pas ? Et dont Shotoku Tachi est considéré comme un avatar. Nous avons rappelé que c'était dans cette chapelle qu'il serait entré en méditation, le prince Shotoku, pendant toute une semaine, afin d'aller reprendre son exemplaire personnel et corrigé du Sutra du Lotus, celui qu'il possédait au Hanya-dai, ou Hanya-ji, n'est-ce pas, du monastère de Kozan, ce que je vous donne ici, alors qu'il était le maître du pic du sud, le Nangaku-daishi, c'est-à-dire Eshi Huese, le second patriarche du Tiantai chinois. Nous retrouvons ici, sans étonnement donc, le même enchaînement d'idées que dans le poème de la centurie du lotus que nous avions cité auparavant. C'était ce poème. Il faut y penser, c'est bien notre existence qui est à déplorer, en la demeure de loi réelle, Minori no Yado, ni est la matière de nos rêves. Miru Yumezo Naki. Je vous l'avais dit la dernière fois, n'est-ce pas ? Donc vous voyez le rapport entre les deux. Et c'est le rapport qui est établi entre rêve, yume, réalité, utsutsu, et sutra du lotus, hokekyo. En même temps que vous avez le Minori no Yado, n'est-ce pas ? Le Utsutsu est dépassé par le Minori, la réalité du lotus. Et ici, le Yumedomo Yorizo Utsutsu ni Wakoshi, il est venu à la réalité par le Hokekyo. C'est une pensée voisine. Il n'est pas même jusqu'au mot dono, n'est-ce pas, la chapelle, qui ne reprenne le terme de Yado du poème précédent. Le rêve mène à une réalité plus haute, qui est celle du lotus. Ce rêve qui confirme la réalité est bien sûr mis sous le signe de la vérité suprême. Le rêve est en fait un thème qui revient souvent dans cette centurie, mais le plus souvent comme manifestation de la vérité profane. C'est en effet le moyen de communication circonstanciel le plus simple qu'aient les dieux et les bodhisattvas de prévenir les humains de leurs intentions. C'est bien évidemment le cas de ce poème dans lequel Jien évoque le rêve qui lui a appris la naissance du futur empereur, le prince Kanenari, puisque le prétexte de cette centurie, n'est-ce pas, c'est la naissance de Kanenari, nous y reviendrons très brièvement dans la postface, dont nous avons vu que les espoirs qu'il avait suscités par sa naissance ne pourront s'épanouir, puisqu'il va être victime de la crise de 1221. Mais Jien est encore sous le charme du rêve ici. Faisons-lui confiance et remettons-nous-en au saint prince Hijiri. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais cela va sans dire. Hijiri, c'est le premier caractère c'est la lecture japonaise, kun, du premier caractère de Shotoku, n'est-ce pas ? À chaque fois qu'on parle de Hijiri, on fait allusion à Shotoku Taishi. Ça crève les yeux, mais il n'est peut-être pas nécessaire il n'est peut-être pas inutile de le redire. C'est pour ça que j'ai traduit ici par le saint prince, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais Hijiri à lui seul rappelle Shotoku. Faisons-lui confiance et remettons-nous-en au saint prince. L'annonce faite par lui en rêve, nous l'entendons en sa réalité. Vous voyez que ce terme est très intéressant. Yume nimo tsugete, c'est l'annonce qui a été faite en rêve par l'annonce de la naissance du futur empereur. Je ne reviens pas sur les détails. Ça a été donné en rêve à un autre moine qui l'a rapporté à Shotoku, et c'est le début de cette centurie. Nous le reverrons dans la postface. Mais vous voyez que le Yume ni Motsugete, c'est quelqu'un d'autre, et Utsutsu ni Mokiku, c'est Shotoku Taishi, c'est Jien lui-même, n'est-ce pas ? Dans le rêve, cela a été rapporté, et il le constate, et il le voit, la nouvelle, c'est la nouvelle Kiku, n'est-ce pas ? Qu'il écoute, qu'il entend. Donc, sous le signe du Shintai, c'est encore le rêve, ici, de la vérité suprême, donc pris comme les prémices du réel. Mais le rêve, le plus souvent quand même, est avant tout dans notre monde la manifestation de l'irréel et donc de la vérité profane. Nous n'en donnerons qu'un exemple qui est tout à fait entendu, convenu, n'est-ce pas ? Ce corps éphémère, Adanomi, que serait-il pour nous ? Les ans ont passé. Oui, je n'insiste pas trop. Enfin, il y a quelques divergences possibles. Oui, je vous donne une interprétation possible. Que serait-il pour nous ? Les ans ont passé. Mais quand de notre rêve pourrons-nous nous éveiller ? Il est inutile d'insister sur les poèmes de cette trempe qui ne font qu'exprimer l'évidence. Retenons malgré tout le statut double du rêve chez J.N., comme chez tous les poètes de son époque, et souvenons-nous du crédit qu'il y a accordé dans son Musoki, ses chroniques du rêve, n'est-ce pas ? Précisément comme communication des sphères supérieures de la réalité. Cette centurie de Naniwa aurait amplement mérité que nous y consacrions tout notre cours. Mais nous avons fait le pari plus risqué de présenter au long de ces 13 heures une vue d'ensemble de la pensée de J.N. telle qu'elle s'exprime dans la variété de sa production littéraire. Nous devons donc arrêter ici notre lecture de la centurie, non sans au préalable en lire la postface. Les préfaces et postfaces de J.N. nous fournissent en effet des renseignements précieux, bien que fragmentaires, sur le sens qu'il donnait à son activité poétique. Et la postface de la centurie de Naniwa n'échappe pas à la règle. Il nous faut donc la regarder attentivement. La règle Narai. Voyons-en d'abord la première phrase, longue et complexe. Je ne vous la lis pas, vous la parcourez du regard pendant que je vous la traduis. Donc cette première phrase qui est assez emberlificotée, n'est-ce pas, comme souvent ce qu'écrit J.N. en prose, alors que sa poésie est le plus souvent assez rationnelle, au point qu'on l'a appelé, qu'on pourrait presque la dire prosaïque par certains moments, lorsqu'il écrit en prose, il est beaucoup plus diffus, sauf dans le Gukansho. Et encore que là aussi, son style donne parfois beaucoup de fil à retordre à ceux qui veulent le comprendre. Donc voici cette première phrase. L'un des usages, narai, de la poésie japonaise, Yamato Uta, veut que si l'on s'en tient trop strictement au thème choisi, n'est-ce pas, le dai, j'ai parlé de kudai tout à l'heure, le poème ne saurait prendre forme, sugatao emajiki, ne saurait obtenir la forme, n'est-ce pas. Et cependant, quand on pense que si le grand maître Jikaku, je n'ai pas insisté là-dessus. Enfin, si le grand maître Jikaku a compris précisément les deux vérités, le Jikaku Daishi, c'est évidemment Ennin, n'est-ce pas, le grand moine Tendai japonais du IXe siècle, le disciple de Saisho, et qui s'est rendu en Chine de 838 à 847. Il a vécu quasiment 10 ans en Chine, à l'époque où le bouddhisme a été persécuté et où Pochuyi, n'est-ce pas, Hakudakuten, mourait, n'est-ce pas. C'est donc un témoin exceptionnel. Il a laissé, bien sûr, ce fameux Nitogu Hoki, n'est-ce pas, ses mémoires de son séjour en Chine. Alors, ce qui est important, pourquoi J.N. le cite-t-il ? C'est que Ennin était le grand fondateur de la tradition ésotérique du Tendai, du Taimitsu. C'est en quelque sorte, si je puis me permettre, le Kukai du Tendai. C'est une simplification et j'espère que ceux qui m'écoutent ne prendront pas comme argent comptant, mais c'est lui qui a vraiment bâti le système ésotérique du Tendai. Et c'est... À part ça, on parle de poèmes de Jikaku Daishi ici. Il y en a un dans le Shinko Kinshu. Le Shinko Kinshu, donc, qui a été fait à l'époque de J.N. et auquel J.N. a certainement participé. Il y a seulement un poème de Jikaku Daishi, de Ennin, un poème tout à fait banal, justement, sur les ans qui s'accumulent. Et je ne vous le cite pas parce que ce n'est pas peine de s'y arrêter, mais on peut penser que, justement, c'est le Il le prend comme exemple de la vérité profane, n'est-ce pas ? Donc, voici, je reprends la phrase de J.N. Et cependant, quand on pense que si le grand maître Jikaku a compris précisément les deux vérités, sous-entendu, c'est par la poésie, et que les poèmes qui expriment l'intention profonde, Go-hon-ni, n'est-ce pas, Moto no Kokoro, du prince héritier, Taishi, n'ont pour condition N de leur création que la loi de Bouddha. À la pensée donc que même la dimension la plus profane, Bonzoku no Kata, soutenue par la matière de ce monde, Konoyo no Jitai ni Uketaru, Jitai, vous voyez, la substance, littéralement, la substance terrestre, la substance. Donc Shakespeare parlait de la matière dont sont faits les rêves. Ici, c'est la matière dont est fait le monde, n'est-ce pas ? Donc, est soutenu par la matière de ce monde. Cette matière est en son fond, n'est-ce pas ? Soko, le caractère qui est donné ici, c'est soko. Cette matière est une, avec l'essence de la loi. Sous-entendu, il faut comprendre ici, soko wa mina hitotsu nareba, mina hosho to hitotsu nareba, est une avec l'essence de la loi. On ne peut plus dès lors renoncer à la poésie japonaise. Utao steji, tote. Et pour peu que l'on insère sashi yose habereba, sashi yose lunesu, sashi yosu, sous-entendu des allusions aux deux vérités, dans les élégants poèmes anciens, Nabi Yakanaru, Shiki no, Furukoto, les paroles anciennes, n'est-ce pas, Furukoto veut dire ici les poèmes anciens. Donc pour peu que l'on insère des allusions aux deux vérités, allusions aux deux vérités, c'est sous-entendu, n'est-ce pas, Sashi, Ledu, pour peu qu'on mette quelque chose, Sashi, Yoselu, qu'on ajoute quelque chose dans ces élégants poèmes anciens, il devient alors difficile de distinguer le sens des deux vérités, c'est-à-dire que les élégants poèmes ne relèvent plus seulement du zokutai, de la vérité vulgaire, là, pour le coup, mais aussi de la vérité sainte, suprême. On reconnaît sans peine ici l'ombre de la citation centrale de Pochuyi sur les Kyogen Kigo, dont je vous ai déjà parlé, les Kyogen Kigyo au Hirugaesu. La dernière proposition est ambiguë. Signifie-t-elle que la distinction entre les deux vérités est difficile à faire entre les poèmes? Entre les poèmes, oui, comme l'a tenté de faire J.N. dans cette centurie, ou est-elle difficile à discerner dans un même poème ? Mais je vous ai donné mon interprétation. Voyons la suite. Après ce préambule général, J.N. va présenter ce qu'elle a voulu faire. Ça commence par « Shika wa aredo, kokoro wo yaritaru koto wa, kotoba no narai nareba », etc. Malgré tout, épancher son cœur, kokoro wo yaru, n'est-ce pas, c'est se débarrasser l'esprit, littéralement. C'est kokoro o aharau. Épancher son cœur étant l'usage de la poésie, dans l'intention profonde, omoi nagarani, omoi mamani, omou mamani, dans l'intention profonde de faire pénétrer irekashi, ce qui veut dire haireyo, n'est-ce pas, dans l'intention profonde de faire pénétrer dans la voie de réalité, encore une fois, makoto minori, si peu que ce soit, j'ai mêlé majiroete, aux fleurs de Yoshino et à la lune des nuits d'automne, c'est-à-dire les clichés poétiques traditionnels, une lumière qui se répand, comme je le pense, dans tous les horizons. Izukatanimo chirijirini shikari ya sasu. C'est une allusion, certainement, à Wako Dojin, n'est-ce pas ? Shikari o yawaragete chiri ni dosu, se adoucir sa lumière pour se mêler au monde. Vous savez bien que dès que l'activité poétique est en jeu avec un moine poète, c'est ce shikari o yawaragu, et le terme de yawaragu est sous-entendu ici, qui est derrière. Et malgré cela, s'ils sont dépourvus de splendeur poétique, nioi, c'est là, vous souvenez du poème, n'est-ce pas, de Kukai, légèrement antérieur à Jien ici, pas Kukai, mais le poème, Idoha no Uta, qui est tardif et n'apparaît qu'à la fin de Heian, mais Idoha Nioedo, n'est-ce pas, ce ne sont pas les couleurs qui sentent, mais les couleurs qui sont splendides. Donc, une lumière. Alors, si peu que ce soit, j'ai mêlé aux fleurs de Yoshino et à la lune des nuits d'automne une lumière qui se répand, comme je le pense, le Ya, n'est-ce pas, dans tous les horizons. Et malgré cela, s'ils sont dépourvus de splendeur poétique, ils ne méritent pas d'être pris en considération. Tolukatam mo haberan ninan. Il faut vraiment que il faut qu'il y ait un lustre poétique pour qu'on y fasse attention. Je n'ai fait que m'en remettre à mes inclinations, kokolozashi ni makasete, et ne veux que rendre hommage à l'auguste compassion, on aware, du prince héritier. Ici, Jien nous trahit quelques secrets de fabrication, pour ainsi dire. Il a voulu ajouter au cliché poétique, fudukoto, convenu, une splendeur nioi, issue de la lumière provenant de la doctrine bouddhique. Cette œuvre de conversion, en quelque sorte, qui est ici exprimée par Makoto no Michi ni mo ide, entrée dans la loi de vérité, c'est une œuvre de conversion qu'on appelle Kedo, n'est-ce pas, le kasu, littéralement convertir la voie de la convertir à la voie. Et voyons enfin ensuite la fin plus concrète, n'est-ce pas, qui est kore mo tada suzuru ni omoitatsu ni wa haberanu narubeshi. Cela s'est fait pour ainsi dire sans intention précise, suzuroni, qu'il faudrait séparer de omoitatsu, ni décision de ma part. Alors que j'avais composé à un certain moment, Itsuzoya, trois poèmes, à l'occasion, de la naissance du futur prince héritier, il avait composé trois poèmes. Mais quelqu'un me rapporta un rêve. Alors je n'insiste pas sur la personnalité de ce quelqu'un, c'est un moine du nom de Kuin, mais n'insistons pas là-dessus. Quelqu'un me rapporta un rêve selon lequel le prince héritier et son épouse, Kisaki, vous voyez que c'est une obsession chez Jien, n'est-ce pas ? Il y a le prince, le souverain, le roi, l'empereur et sa parèdre, en quelque sorte. Kisaki, n'est-ce pas ? Et son épouse lui avait accordé leur attention. Noju, le terme ici, n'est-ce pas ? Noju, osameuku, veut dire accorder une attention à quelque chose, n'est-ce pas ? Donc, Noju Arusama, les trois poèmes qui ont été faits par Jien ont attirer l'attention du prince héritier dans son monde supérieur dans lequel il est actuellement. Et donc, aussi, comme le veut, pensais-je, la coutume, fuzoku, c'est un terme très de prédilection, encore une fois, vous le savez, de Jien, aussi, comme le veut, pensais-je, la coutume de notre pays, laquelle n'est pas sans raison, kotowari no moya tote, à partir du premier jour de l'année, puisque c'est un jour d'affinité, en no aruhi, c'est un en nichi, jusqu'au quatrième, j'achevais la composition que j'écrivis en un livre de 100 poèmes afin de les offrir, sous-entendu, à Tatematsuri Tamae, n'est-ce pas ? C'est l'ordre qui a été donné à Jien Tamae de l'offrir, Tatematsuri, à, sous-entendu, Shotoku, donc afin de les offrir à Shotoku Taishi, sur la commande, on Asurae, sur la commande du grand chambellan de la maison de l'impératrice, Chugu Taibu. Ce Chugu Taibu, c'est Fujiwara no Norihiye, qui était le fils de Yoshitsune, n'est-ce pas, le grand poète Yoshitsune, qui a participé au Shinko Kinshu, mais Yoshitsune est aussi le père de l'impératrice, à l'époque, Rishi, ou bien qu'on lit aussi Ritsuko, donc la mère de Kanenari. Vous voyez que tout cela est en petit comité, n'est-ce pas ? Donc j'écrivis un livre, Ikkan, de 100 poèmes, afin de les offrir à Shotoku Taishi sur la commande du grand chambellan de la maison de l'impératrice. Il l'avait fait donc pour lui, mais Noriye en a eu vent et lui a demandé de le mettre au propre et d'en faire un don solennel. Nous voyons bien ici les raisons politiques et domestiques de la composition de cette œuvre. Et nous avons aussi une illustration de l'idée de Sokue, dont je vous avais parlé au début, c'est-à-dire la composition rapide. Ce n'est pas improvisé, c'est rapide, puisque cette centurie s'est faite en 4 jours. Il est évident que Jien n'avait pas sa bibliothèque autour de lui, ce qui rend d'autant plus précieux ce témoignage d'une activité poétique où se mêlent étroitement le profane et la scolastique. Nous pouvons à présent aborder le grand ouvrage de J.N. Ce que nous avons vu depuis le début de l'année constitue une introduction à l'univers intellectuel que nous allons découvrir à partir du prochain cours, et je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui.